Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC. RMC Story avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Loumir Lapré et Fred Hermel. Dans un instant, on va parler de la lutte contre la fraude fiscale et sociale qui atteint des records en 2023. Est-ce que vous seriez prêt, pour aider l'État, bien sûr, hein, pas pour autre chose, à dénoncer votre voisin si, par exemple, il avait oublié de déclarer une piscine, une véranda, un abri de jardin? Dites-nous tout au 3216 et sur l'appli RMC. Sujet existentiel hyper important à 14h30 RMC Conso. On vous dira comment bien choisir votre saucisson. Oui. Et faire la différence entre l'artisanal et l'industriel. C'est de plus en plus difficile.
Mais c'est important.
Mais c'est très important.
C'est la France.
Déjà, quand il y a 8 euros les 8 saucissons, on est à peu près une petite idée sur si c'est industriel ou artisanal. Il y aura les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
Oui, on parlera notamment d'un sondage CSA sur l'utilisation de statistiques ethniques pour lutter contre la délinquance ou encore d'une grève.
Ah bon,
pas à la SNCF, c'est un indice. C'est pas à la SNCF,
la RATP. Oh bah c'est la RATP.
Ah, bien.
Et on terminera avec notre humoriste Vincent Cerussi. Cerussi n'a pas tout compris à 14h50.
RMC Estelle Midi.
14h05 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec le chiffre du jour. 15 milliards 200 millions, c'est ce que l'État a récupéré en 2023 en luttant activement contre la fraude fiscale et sociale. Un chiffre record, fraude aux impôts, piscine ou véranda non déclarée. Les agents du fisc ont donc bien travaillé, bien aidés quand même par l'intelligence artificielle, mais aussi par des particuliers. Parce que ce qu'on ne sait pas forcément, Rémi, c'est qu'on peut être payé en dénonçant son voisin.
Mais bien sûr, ce dispositif a même un nom, c'est celui des aviseurs fiscaux. Ah oui, sorte d'indic du fisc qui peuvent être rémunérés pour dénoncer des fraudes fiscales. Il a été mis en place ce dispositif en 2017 à titre expérimental. À l'origine, il était destiné à la seule lutte contre les fraudes liées à la fiscalité internationale, mais ensuite, il a été étendu à tout type de fraude fiscale. Et on vient de décider d'ailleurs, en ce début d'année, de pérenniser ce dispositif. Aujourd'hui, un aviseur fiscal peut percevoir jusqu'à 15% des droits recouvrés dans le cadre d'affaires de grande importance. Tout dépend en fait du montant que va recouvrer l'État. Et cela semble fonctionner, d'après le ministère de l'Économie. Depuis que cette possibilité a été ouverte, le nombre d'aviseurs fiscaux n'a cessé d'augmenter, passant de 27 en 2017 à 102 en 2021, avec deux grands types de profils d'après Bercy. C'est très sérieux tout ça. Le comptable. Ah oui, le comptable qui au courant
qui dénonce son client.
Attends, le comptable ou alors qui est employé dans une société,
mais qui est
au courant de pratiques frauduleuses et puis qu'au bout d'un moment, il finit par les dénoncer parce qu'il ne veut plus cautionner ce type de pratiques.
Oui.
Et puis il y a également le conjoint. Ah oui, le conjoint avec qui ça se passe mal, que vous avez fait une crasse ou que vous quittez.
Dis donc ton lingot.
Méfiez-vous. Tout bénef, en tout cas pour les finances publiques. Depuis 2017, l'indemnisation des informateurs a représenté un coût global d'1 830 000 euros.
C'est pas énorme.
1 830 000 euros pour les aviseurs fiscaux au total, alors que l'État en a récupéré 110 millions.
Oui, non, c'est quand même l'État qui prend le plus, bien sûr. Seriez-vous prêt à dénoncer votre voisin pour aider l'État? Je commence avec vous, Loumir.
En fait, je pense que ça serait assez inutile parce que l'immense majorité de la fraude et de l'évasion fiscale, elles sont invisibles. Elles sont le fait de sociétés écrans. Et tout ça, ce sont des contrats qui sont signés avec des conseillers fiscaux et des avocats fiscalistes dans des bureaux, et c'est bien caché, et c'est pas la personne que vous voyez ne pas déclarer sa piscine. Bien sûr que
ça a bien marché, hein, en termes de déclaration de piscine, cette année.
Mais c'est ça que, et pourquoi pas en fait. Bon, moi je suis toujours un peu mal à l'aise avec le fait de dénoncer son voisin. Je trouve que éthiquement, je trouve ça un peu étrange.
C'est Bernard Arnault, par exemple.
Mais sauf qu'en fait, et c'est ça, le problème, c'est que Bernard Arnault, il habite dans un hôtel particulier. Il n'a pas de voisin, et que la délinquance des riches, elle est toujours cachée. Elle est toujours cachée. Et c'est ça le problème, et c'est pour ça que moi je suis contente qu'on parle de ce sujet, c'est qu'il faut le rappeler, la délinquance des riches, elle est invisible. Elle nécessite des moyens de l'État faramineux pour démanteler des réseaux d'évasion fiscale avec de la domiciliation de sociétés écrans dans des paradis fiscaux, des holdings, etc. On a bien vu le nombre d'années qu'a pris, par exemple, l'enquête sur les montages d'évasion fiscale de M. Pacani.
Mais là, on peut quand même se féliciter, c'est un record. Et juste pour les piscines, quand même, c'est 140 000 piscines qui ont été détectées, et ça a permis de rapporter, quand même, aux caisses de l'État 40 millions d'euros. Alors, bien sûr, c'est loin des 15 milliards, mais enfin, c'est quand même... Toujours ça de prix, mais bon, Loumia, je sentais bien que vous seriez pas prête à dénoncer votre voisin s'il fraudait. En revanche, Fred Hermel, c'est marrant, ça m'étonnerait moins, quoi, du coup.
Eh ben non. Ah bon. Je comprends qu'on puisse le faire. Je pense qu'on devrait le faire.
Mais tu le feras pas.
Mais culturellement, après ce qui s'est passé pendant l'occupation, dans nos têtes de Français.
Là, c'est pas pareil.
Ah ben, la dénonciation anonyme, je suis désolé.
Non, mais tu ne peux pas rapprocher les deux.
Mais tu me poses la question pour moi.
Oui.
Pour moi, dans ma tête, c'est la délation et c'est trop mauvais souvenir. C'est Les Corbeaux, ce qu'on appelle Le Corbeau, qui est un grand film qui raconte comment, pendant la guerre, une personne dénonçait les Juifs à la Gestapo ou à la police française. Donc, je te le dis, pour moi, je reste bloqué à cette période de l'histoire de mon pays, qui est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de la France. Et donc, l'idée de faire de la délation ne me bloque. Je n'y arrivais pas. Je comprends qu'on puisse le faire, on devrait le faire, mais par exemple, ça me choque. En Suisse, les gens le font extrêmement bien.
Mais si ton voisin, il tape sa femme, par exemple, tu vas appeler la police.
C'est pas pareil.
D'accord.
Est-ce que ton devoir de citoyen, ce n'est pas de dire à l'État quand ton voisin fraude, fait quelque chose de mal.
Oui.
Parce que la fraude, c'est pas bien.
Je suis d'accord avec toi. Alors, si quelqu'un qui tape sa femme ou ses enfants, mais ça, c'est de la, enfin, je veux dire, c'est une réaction humaine normale de protection.
Mais tu vois ton voisin.
C'est la non-assistance à personne en danger.
Si c'est un voisin qui vide ses poubelles dans la rue, tu fais quoi? Tu dis rien?
Ah non, je vais l'engueuler.
Ouais, bah, non, mais attends,
on occupe.
Oui, mais ton voisin, s'il fraude, quelque part, il retire de l'argent à l'État. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le premier ici à dire que c'est scandaleux quand on profite de l'argent de l'État.
Je suis d'accord, je trouve que c'est bien de le faire. Mais tu me poses, moi, la question, Fred Hermel, j'ai trop dans ma tête cette idée de la délation du corbeau que je serais bloqué. Je me sentirais mal de t'écrire un petit courrier, de le mettre en disant, monsieur l'inspecteur, c'est culturel. Je pense que les gens plus jeunes, ça leur pose pas de problème. Mais moi, je suis pas, enfin, cette histoire, j'ai été en contact avec des gens qui ont vécu cette période, donc c'est pas possible humainement pour moi, voilà, c'est culturel.
J'aurais trop peur d'avoir des représailles, surtout. Thierry Moreau, alors vous, on sait qu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau, vous avez ce problème de piscine cachée, mais que vous avez résolu, et donc vous payez aujourd'hui vos impôts comme
tout le
monde.
En fait, elle n'avait pas été déclarée par les précédents.
Mais oui,
quand j'ai récupéré la maison, je l'ai déclarée, donc tout va bien.
Voilà.
Thierry Moreau. Je te crois, moi, Thierry, tu sais.
Thierry Moreau, est-ce qu'il faudrait que les citoyens aident plus l'État dans cette lutte à la fraude fiscale et sociale?
Je pense que c'est un problème de montant. Je pense que le fait de se venger de son voisin qui a fait une pergola, c'est infinitésimal dans le recours à la fraude fiscale. En revanche, il y a un vrai système. Oui, c'est des petites choses. Et puis, je suis désolé, je suis comme Fred, ça pue, quoi. Ça sent, les lettres commandées. Un citoyen qui vous veut du bien. Il y a des relents qui me gênent beaucoup. En revanche, qu'on développe ce que l'Italie a fait, par exemple, pour lutter contre le blanchiment de la mafia, parce qu'il fallait attaquer la mafia, pas forcément par les armes, parce qu'on n'y arrivait pas, mais par le fisc et par l'argent.
C'est comme ça qu'Al Capone est tombé.
Absolument, j'allais y venir. On a donc incité des gens à dénoncer, et là on revient.
C'est pas la même. C'est pas la même ampleur, quoi. Enfin, je veux dire. On en parlera peut-être moins dans 50 ans. Enfin, je veux dire.
On revient à ce que disait Rémi tout à l'heure, c'est-à-dire les comptables, c'est-à-dire offrir une immunité, voire de l'argent aux gens qui sont dans les systèmes pour dénoncer le système qu'ils ont mis en place. Ça, je trouve ça très bien et je pense que pour le coup, ça peut rapporter beaucoup. Beaucoup.
En fait, c'est comme les chasseurs de primes. Ce sont des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui vivent de ça et qui sont de grands professionnels d'enquête.
C'est énorme.
D'enquête.
Ouais, mais c'est des frivés, chasseurs de primes.
Ah, mais complètement. Mais c'est-à-dire qu'il y a des organisations, c'est lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui sont des enquêteurs privés qui font un travail de, comme les chasseurs de primes qui allaient chercher des condamnés en fuite. Là, ce sont des gens qui font des enquêtes et qui vivent de ça. Ils récupèrent 1,5% de ce que récupère l'État à partir de 100 000. Donc, attends, ils font pas ça pour une pergola, hein. Les mecs, ils travaillent pour récupérer des dizaines et des dizaines de millions d'euros de fraude fiscale.
Mais ce n'est pas des fonctionnaires.
Ces gens-là, souvent,
ces gens-là
ces gens-là se heurtent souvent à un État qui ne comprend pas. Par exemple, dans l'affaire de la taxe carbone, que j'ai un peu étudiée, l'État a mis très longtemps avant de se rendre compte qu'il était en train de se faire pillé. Et a fallu qu'on lui mette le nez dessus pour qu'il comprenne que c'était une gigantesque escroquerie qui a quand même coûté 1,6 milliard à l'État.
C'est énorme.
Et dans l'affaire Marco Mouli, le quatuor de trucs dont l'art d'argent et de sang s'est fait l'écho, ils ont quand même empoché 283 millions d'euros. Et il y en a encore un petit peu dans la nature. Donc, non, cette chasse-là, oui.
Exactement.
Dénoncer son voisin qui a mis 3 pavés de plus autour de sa terrasse, non.
Ouais. Vous savez, ce sont les petits pavés qui font les grandes rivières. Patrice est en ligne avec nous. Patrice, qui est directeur régional dans les énergies renouvelables. Bizarrement, je n'ai pas le nom de la ville de Patrice. Bonjour, Patrice.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous, Patrice. Vous avez voulu réagir sur ce sujet. Vous seriez capable de dénoncer votre voisin s'il fraudait ?
Mon voisin, non, pas nécessairement, mais des gens qui ont des bonnes situations et qui abusent de leur situation pour en profiter, je trouve que c'est dommage. Ouais.
Mais c'est-à-dire, vous pensez à quoi en particulier ?
Moi, dans mon domaine, je le vois. Alors, il y a plusieurs situations dans notre domaine qui existent dans ce cadre-là. Bon, déjà, il y a les aides sur tout ce qui est C2E, tout ce qui est crédit d'impôt, ma prime rénov, où je pense que là, il y a des abus qui sont juste colossaux.
Ouais, c'est sûr. Ça a été documenté,
Ça a été dénoncé, mais ce n'est pas du tout contrôlé. Et aujourd'hui, ça existe encore. Donc, ce qui fait des freins pour des installateurs, on va dire, traditionnels, qui, eux, font leur job de façon tout à fait correcte et voilà, ils travaillent sérieusement sur de la pérennité et malheureusement, voilà, il y a pas mal de sociétés qui abusent de ça. Je pense que là-dedans, l'État a beaucoup d'argent à gagner et à économiser. Et puis après, des gens qui peuvent aussi, parce que ce sont des stars ou parce que ce sont des gens très bien placés, profiter de dire, voilà, si vous me donnez des produits pour chez moi, ce sera sympa. Je pourrais en bénéficier et mettre en avant votre marque, alors qu'après, derrière, il n'y a pas nécessairement de contrepartie de contrat.
Alors, souvent, il y a quand même des. Alors, ça, vous parlez des influenceurs, mais pour le coup, il y a des contrats et ils sont payés.
Pas nécessairement. Quand c'est de l'influence, j'entends, et effectivement, là, il y a un contrat.
Exactement.
Un bon et du forme qui existe, mais je peux vous confirmer qu'il y a des endroits où il n'y a pas du tout de contrat. Et il y a des choses qui se passent, on se dit, c'est des gens qui ont des revenus plutôt conséquents. Et pour la peine, ils estiment qu'ils peuvent acheter des produits sans difficulté, mais qui bénéficient par leur situation davantage, alors que pour la personne finalement qui, elle, n'aurait pas de revenus, en aurait besoin.
Il n'y a pas ces avantages-là.
Ça donne un peu envie, effectivement, de dénoncer. Mais bon.
Mais vous ne l'avez jamais fait?
Non, parce que j'estime que c'est à l'état de personne job, il y a assez de gens qui sont employés pour
tout
ça.
Tout à fait.
Et voilà, mais dénoncer, ça fait ressurgir un passé un peu, peu glorieux de la France. Donc,
ce que disait Fred, ouais.
C'est pas nécessairement ce qu'on a envie de mettre en avant.
Non, je suis d'accord avec vous. Merci Patrice, en tout cas, pour ce témoignage. Alors, on peut dénoncer, mais on peut être aussi victime de dénonciation. C'est ce qui est arrivé à Franck, qui nous appelle de Montpellier, qui est masseur bien-être. Bonjour Franck.
Bonjour Denise, bonjour à tous.
Alors moi c'est Estelle, mais Denise, écoutez, pourquoi pas.
Mais
c'est pas grave. C'est l'émotion. C'est l'émotion, écoutez Franck. La mère Denise, oui, ça a déjà arrivé.
Oui, Denise.
Je suis vraiment désolé.
Non, mais c'est pas grave. C'est pas la peine. Franck, vous avez été victime, vous, de dénonciation. Mais c'était quoi la dénonciation?
En fait, alors moi je suis aveugle et alors ça c'était en 2008. Je vais faire court. Hein. Je venais d'emménager dans une maison en Bretagne, à Lamballe, dans le
Puy-de-Dôme. Très belle région.
Oui, c'est très joli. En fait, moi j'avais un petit bout de terrain autour de chez moi et à l'époque j'avais un chien guide.
D'accord.
Mais mon chien, chez moi, je le laissais libre et je l'avais pas au harnais pour me déplacer chez moi. Et donc, quelqu'un m'a dénoncé auprès de la CAF, puisque j'ai une allocation qui est versée par la CAF, l'allocation adulte handicapé.
Ouais.
En prétextant que j'étais un faux aveugle.
Mais c'est horrible.
Donc, pendant deux mois, j'ai eu cette allocation qui était à l'époque de aux alentours de 800 euros, si ma mémoire est bonne, parce qu'elle a augmenté depuis. Pendant deux mois, j'ai eu des contrôles, etc. Pour vérifier que j'étais vraiment aveugle.
Mais vous avez su qui vous avait dénoncé ?
Ah non, malheureusement non.
Mais alors, la bonne nouvelle, Franck, là-dedans, un, c'est parce que vous avez pu prouver que vous étiez aveugle, et deux, ça veut dire quand même que.
Ça, c'est pas compliqué.
Oui, non, mais ça, c'est pour ça que je dis, la bonne nouvelle là-dedans, c'est quand même que l'État fait son boulot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand il y a une dénonciation, l'État va voir, quoi.
C'est pas par rapport à l'État, c'est simplement que. J'avoue que je suis un peu comme Fred. Le fait de dénoncer, moi, me gêne.
Vous gêne, oui, je comprends.
Voilà, c'est...
Surtout quand c'est à tort.
En plus...
Là où moi je trouve que ce qui va se passer, c'est exactement le problème, c'est qu'en fait on va se dénoncer entre petits, le voisin qui est saoulé parce que machin a laissé sa poubelle, ça va être la course à l'échalote de ça, et comme d'habitude, les ultra-riches qui, eux, sont planqués dans leur bureau, vont passer à travers. Et c'est ça, moi, que je trouve qui est problématique. C'est que, en réalité, ça va être, on voit gros comme une maison ce que ça va être. C'est-à-dire des conflits de voisinage, des règlements de compte en familiaux, etc. Et encore une fois, les vrais responsables qui blanchissent leur argent, qui planquent leur argent, qui volent l'État d'argent qui sont dus.
Autour de ces ultra-riches, il y a toutes des armées d'avocats, de comptables.
Ah oui.
Donc il y a beaucoup de monde qui sont au courant. Donc
malheureusement, ce serait bien. Mais ça me paraît être une meilleure utilisation du temps et des ressources de l'État que de viser des gens qui sont soupçonnés, voire qui se sont déjà rendus coupables d'évasion fiscale par le passé, plutôt que de dire notre pauvre auditeur
l'État ne revient qu'à partir de 100 000 euros de fraude. Ouais, c'est déjà des grosses fraudes. Donc de toute manière,
cette histoire quand même.
Ah bah oui. Ah bah les dénonciations calomnieuses, ça, il y en a quand même eu beaucoup. Hein. Déjà les corbeaux, ça existe depuis très longtemps. Merci Franck en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis bon courage Franck.
Je vous en prie.
Vous avez été dédommagé ou pas?
Hein? Ah oui, non. Oui, oui. Bah, dédommagement, en fait, vous avez juste récupéré votre allocation.
Non, il y a eu une rétrocession des 12 mois qui m'avait sucré, et voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est assez malaisant quand même.
Bah, oui, c'est ça, oui. Bon, c'est sympa d'être accusé. Évidemment. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous. Des messages, Rémi, également sur l'appli RMC. Je vous vois rigoler, là.
Oui, c'est le message de Philippe qui nous dit, moi, ça me fait quand même sourire. Proportion gardée. Qui n'a jamais fraudé dans sa vie? Même une petite fraude.
Je tiens
à avertir Philippe, j'ai son mail.
Je vais le dénoncer.
Attention, trésor public.
Est-ce qu'il est multimilliardaire ou pas?
Je ne sais pas, mais je vais m'intéresser à son cas. Ouais. Jamais.
Charles Prats est notre invité sur ce débat. Il est ancien magistrat de la Délégation nationale de la lutte contre la fraude. Bonjour Charles Prats.
Oui, bonjour Estelle et pas Denise.
Oui, et pas Carole non plus, parce que, enfin bon, bref, c'est pas grave. Charles Prats, est-ce que aujourd'hui, vous pensez que ce serait une bonne chose si tous les Français commençaient un peu à dénoncer toutes les petites fraudes de leurs voisins, ou est-ce que ça servira à rien, tout simplement?
Alors déjà, ils le font, vous venez de le dire. La petite dénonciation et la petite dénonciation du voisin, etc., ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui existe. Hein. C'est quelque chose qui existe au niveau des CAF, votre auditeur vient d'en parler. C'est quelque chose qui existe au niveau fiscal. Et il faut savoir qu'en général, l'administration, notamment en matière fiscale, ne regarde pas trop ce genre de choses, sauf quand c'est vraiment documenté. Et notamment, une des grandes sources de renseignements pour l'administration fiscale, pour les contrôles fiscaux, ce sont les divorces qui se passent mal ou bien les licenciements qui se passent mal. Et c'est souvent là vous avez des insiders qui vont délivrer des informations. Mmh. Par exemple, dans un couple qui se déchire, monsieur ou madame vont balancer l'autre époux en disant « mais oui, mais en fait… »
Et c'est l'affaire Cahuzac.
Voilà, par exemple.
Bah oui.
Et souvent sur des problématiques d'évaluation des revenus, vous savez, pour les prestations compensatoires, les pensions alimentaires, etc. Et dans le cas des entreprises, des licenciements qui se passent mal, le salarié ou l'ancien salarié, il sait ce qui se passe à l'intérieur de la société. Il peut, à ce moment-là, amener des informations. Et d'ailleurs, l'administration fiscale, les gars dans les territoires, quand ils font bien leur travail, eux-mêmes font la tournée des tribunaux et mettre en œuvre un article du livre de procédure fiscale qui s'appelle le L101 du LPF pour aller prendre connaissance des dossiers dans les tribunaux, puisque l'administration fiscale a un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et a tout à fait le droit d'aller dans le dossier de divorce de monsieur et madame lambda, regarder ce qui se passe, ou dans le dossier des prud'hommes, etc. Donc c'est de la recherche de renseignements, et ça date pas d'aujourd'hui.
Ouais.
Ça fait des décennies que ça existe. Moi, avant d'être magistrat, j'étais douanier, inspecteur des douanes, et une partie de mon travail était d'aller fouiner justement comme ça dans les affaires judiciaires pour essayer de trouver du renseignement pour pouvoir trouver des affaires douanières qui étaient éventuellement exploitables. Donc, et ça, c'est pas de la en réalité, c'est même pas de la dénonciation. C'est simplement de l'utilisation, enfin de la recherche de renseignements classiques. C'est le métier, c'est le métier d'enquêteur.
Charles Prats, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui bravo à l'État d'avoir récupéré ces 15 milliards ou se dire que il y en a encore beaucoup de cachés, quoi?
Alors, on va tordre le coup, parce que depuis deux jours, ça me fait bien marrer, parce que tous les ans, c'est la même histoire. On vous dit, il y a 15 milliards de fraude fiscale détectée. C'est pas vrai. C'est pas le vrai chiffre.
Ah bon?
Le chiffre qui a été donné de 15,2 milliards, ce sont le montant des redressements et pénalités notifiés.
D'accord.
Dans ce volume, vous avez les erreurs des contribuables, les divergences d'appréciation entre l'administration et le contribuable qui vont au tribunal, le cas échéant devant le juge d'impôt, et effectivement, les dossiers de fraude fiscale. Il faut savoir qu'un dossier de fraude fiscale, c'est un dossier sur lequel vous avez au moins 40% de pénalités infligées par l'administration. Et ça,
d'accord,
c'est à peine un tiers des dossiers. Mais évidemment, pour faire une grande communication devant la presse, le ministère ne va pas vous dire que la fraude fiscale détectée, c'est 5 ou 6 milliards. 15 milliards, ça fait mieux. Mais la réalité, c'est ce que je vous dis, et c'est d'ailleurs dans les rapports officiels de Bercy, c'est des indicateurs officiels de la Direction des Finances Publiques. Et il faut savoir que derrière, bien souvent, l'État perd au contentieux. Il a fait des notifications de redressement qui sont annulées par le juge parce que l'État, en fait, n'a pas respecté la loi. Et l'État, par exemple, a provisionné 20 milliards d'euros pour rembourser les contribuables.
Ça va pas. Si on a récupéré 15 pour rendre 20, les calculs sont pas bons, là, du coup.
Voilà, 20, c'est pluriannuel, mais c'est quelques milliards d'euros par an. Si vous voulez, à la loi de finances, vous pouvez regarder au PLF. Vous avez, 2 ou 3 milliards cette année qui sont prévus, qui sont budgétés pour rendre l'argent aux contentieux, aux contribuables qui ont gagné devant le tribunal parce que l'État s'est trompé et leur a infligé des impositions à tort. Donc après, il faut pas cacher notre plaisir. Il y a une progression, et c'est très bien, de la lutte contre la fraude fiscale, mais c'est pas suffisant. Si vous voulez, la principale fraude fiscale, c'est la fraude à la TVA, ce sont les escroqueries à la TVA, et pour l'instant, là-dessus, le compte n'y est pas. On n'utilise pas les outils qui existent, notamment au niveau européen, qui sont les plus performants, et donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour lutter contre la grande fraude. Et vous parliez de dénonciation ou de recherche de renseignement. La réalité, elle est là, c'est d'aller chercher, et donc c'est de faire du renseignement éventuellement technique ou du renseignement sciences humaines sur les grandes fraudes fiscales, notamment internationales. On l'a connu avec l'affaire HSBC, on l'a connu avec l'affaire UBS, etc. C'est là où vous pouvez récupérer beaucoup d'argent. C'est comme ça que fait l'IRS aux États-Unis, pour l'UBS, c'est comme
exactement
ça qu'ils ont fait. Le lanceur d'alerte, enfin le dénonciateur aux États-Unis, il a récupéré beaucoup d'argent. Il a fait de la prison, mais il a récupéré beaucoup d'argent. Et en France, les deux lanceurs d'alerte, Nicolas Forissier et Stéphanie Gibault, pour ne pas les citer, eux, ils ont que leurs yeux pour pleurer, ils n'ont pas touché un copec, pas un centime, alors que l'État, a priori, a quand même réussi à faire des redressements intéressants. Eux, ils n'ont rien eu, et ils sont obligés d'aller devant le tribunal pour essayer de récupérer 3 francs 6 sous qu'ils n'ont pas, et ils sont dans la misère aujourd'hui.
Merci beaucoup en tout cas Charles Prats pour toutes ces précisions. J'étais hyper contente et là maintenant je suis super déçue de savoir que finalement on n'a pas récupéré grand chose. Je vais juste vous lire le message de Sandrine qui nous appelle de Nanterre. Elle est contrôleuse des impôts. Sandrine, elle nous dit: je travaille aux impôts, des lettres de dénonciation, on ne les regarde même pas, c'est direct poubelle parce que ce sont souvent des querelles de voisinage. Tiens justement, Rémi, le résultat de notre consultation sur Twitter.
Seriez-vous prêt à dénoncer votre voisin pour aider l'État en matière de fraude fiscale? C'est le nom qui l'emporte. Pour 78% de ceux qui sont
Les Français ne sont pas prêts à dénoncer leurs voisins parce qu'ils se disent peut-être le jour où ce sera mon tour, je n'aimerais pas être dénoncé. Dans un instant, RMC Conso, Charlotte Méritant, on vous dira comment bien choisir votre saucisson et faire la différence. Et c'est pas toujours facile entre le saucisson artisanal et industriel.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h32, vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est le moment de parler conso et on va parler saucisson avec Charlotte Méritant, RMC Conso.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Et on parle saucisson aujourd'hui, Charlotte, parce qu'on ne sait plus que choisir.
Oui.
Il y a des saucissons de partout, sur les marchés, dans les supermarchés, et c'est vrai qu'on a du mal à faire la différence entre l'artisanal et l'industriel.
D'ailleurs, vous étiez peut-être passé à côté de cette information capitale, mais pourtant, il y a quelques jours a eu lieu la finale du championnat de France de la planche apéritive.
Oui.
69% des Français prennent au moins une fois par semaine l'apéritif, selon une étude. Alors, j'ai voulu faire un focus sur ce produit phare qui est le saucisson. Alors, un Premier conseil, déjà, ne pas se fier à l'emballage et surtout aux emballages qui sentent bon le terroir. Vous savez, le drapeau, la nappe à carreaux, etc. C'est piégeux, il faut surtout lire les étiquettes. Simon Faure, le gagnant de la meilleure planche apéritive, me disait, il faut qu'on cherche un saucisson dans lequel il y a une grande quantité de viande. 70% de viande, 30% de gras maximum et un maximum de viande, c'est-à-dire pour 100 grammes de produits finis, dans un saucisson artisanal que j'ai ramené là, il y a 170 grammes de viande pour 100 grammes de produits finis, alors que dans l'industriel, il y a 149 grammes de viande pour 100 grammes de produits finis. Donc, c'est pas terrible. En plus, il y a du sucre ajouté. Vous avez vu l'étude de l'ANSES parue il y a quelques jours qui parle de ce sucre qu'on rajoute partout. Eh bien, le saucisson, ça fait partie des produits dans lesquels il y a du sucre.
Alors, moi, quand je choisis mon saucisson, je vais toujours tâter le saucisson pour voir s'il est très mou ou est-ce qu'il est très dur. Alors, chacun, il y en a qui préfèrent le saucisson mou, d'autres le saucisson dur. Mais concrètement, le meilleur, c'est lequel?
C'est une bonne idée de tâter le saucisson. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à le faire sur les saucissons que j'ai ramenés.
Je vous ai donné mon préféré.
Et effectivement, vous avez raison. En tout cas, les spécialistes semblent s'accorder sur le fait qu'un saucisson trop mou, c'est un saucisson qui est trop humide.
Bien sûr.
Qui n'a pas séché assez longtemps. Donc, on privilégie plutôt un saucisson plus dur. Après, évidemment, il y a une question de goût. Thierry, qui d'ailleurs, j'ai vu, avait été jury au championnat de France du saucisson.
Mmh. Mais non. Estelle également, d'ailleurs.
On a fait ça en équipe.
Comment on rejoint ce truc?
On est coopté.
Il faut être coopté, il faut être très important.
Ah non, je rigole. Est-ce qu'ils veulent des écolos qui mangent du saucisson?
Ah, mais ça, c'est possible.
Ah, ça, j'ai un profil.
C'est possible. Et c'est très bientôt, d'ailleurs, cette finale. Alors, juste, il y a deux types de saucissons. Il y a le saucisson où il y a du blanc dessus, là, oui. Espèce de farine, et d'autres où il n'y a pas de farine.
Alors sur quasiment tous les saucissons, vous avez effectivement une espèce de couche par-dessus la peau. C'est en fait censé être, ça s'appelle la fleur, une moisissure naturelle qui se crée lors du séchage du saucisson. Lorsque le saucisson est artisanal, effectivement, c'est naturel. Donc elle va pas forcément être tout à fait blanche, mais un peu verdâtre ou un petit peu grisâtre. Quand la poudre est trop blanche ou trop bien homogène sur le saucisson, trop épaisse, il y a un risque que ce soit un industriel qui ait rajouté des farines, des conservateurs, etc. pour créer cette poudre blanche qui va accélérer le processus de séchage. Donc, c'est pas très bon et apparemment, il y a un truc à faire, c'est taper le saucisson pour voir si la poudre s'évapore ou pas. Alors là, dans
c'est son cochonou.
Ouais.
Ouais. Alors c'est pas que c'est la porte, c'est qu'elle est régulièrement restée sur le bois de la table.
Voilà, exactement. Et j'en ai plein les mains.
Ouais. Et vous en avez plein les mains. Et ouais.
Alors pourquoi
on misait pas tout sur ce saucisson non plus.
Non, hein, c'est vrai. Bah oui, c'est l'industriel. Pour compléter ces conseils, j'ai aussi appelé la confrérie de la noble rosette du fin saucisson et du bon Jésus. Oui, il y a une confrérie pour ça.
C'est bien.
C'est Lyon. Ça.
Ah oui,
c'est des Lyonnais, non?
Bon Jésus, c'est Lyon.
C'est un groupe de passionnés. Alors pour eux, il y a pas de mauvais saucisson. Tous les saucissons sont bons. Mais Jean-Paul Cubi, alors ça s'invente pas, Jean-Paul Cubi.
Il est vigneron, non?
M'a donné quelques conseils. Si vous avez un saucisson trop uniforme, un bâton tout droit, eh bien, c'est un saucisson industriel. Pourquoi? Parce que quand il est fait dans un boyau naturel, il est un petit peu biscornu. Il prend la forme du boyau, tout simplement.
Et c'est quoi le petit bout de métal qui ferme le saucisson? Est-ce qu'il faut acheter des saucissons avec le bout de métal ou sans bout de métal?
Sans bout de métal, parce que les saucissons artisanaux sont refermés avec de la ficelle. Quand il y a une agrafe en métal, il y a un grand risque que ce soit un saucisson industriel.
Ça se mange pas, de toute façon.
Et ça se mange pas.
Et bah,
j'adore, le bout du saucisson, c'est quand tu prends et le truc.
Bah oui, moi aussi.
Mais oui, il est hyper dur, il y a plein de peau. Bref.
La peau, quand elle est artisanale, elle se mange. Quand c'est le boyau naturel, elle se mange.
Oui,
sinon, c'est écrit sur le paquet, quand ça ne se mange pas, c'est que c'est du plastique ou de la cellulose ou du collagène, pardon.
Dans le saucisson industriel, enfin, l'omir.
Ouais, je sais pas, je mange pas de saucisson industriel.
Ah oui, bon. Évidemment, il y a aussi un moyen de savoir si le saucisson est bon en regardant le prix, j'imagine.
Oui, il n'y a pas de secret.
Le meilleur et le plus cher.
Effectivement. 30 euros le kilo à peu près pour mon saucisson artisanal contre 15, voire moins pour de l'industriel.
Donc on récapitule, un bon saucisson, c'est un saucisson sans trop de farine dessus, avec une forme biscornue,
tordue,
sans petit truc en métal et cher.
Exactement, vous avez tout compris.
Et ben voilà, et ben
le 17
beaucoup.
Juin, il y a le 3e festival du championnat de France du saucisson à Courbevoie.
Et on va essayer, de vous faire inviter. Évidemment.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Charlotte Méritant, RMC Conso, c'est tous les jours 14h30 dans Estelle Midi. Si vous voulez réécouter cette chronique, et bien vous allez sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, Rémi.
On va parler notamment d'une grève à la RATP et des marques préférées des Français.
Ah génial.
La
RATP, on fait pas partie.
Franchement, les Français ont tort parce qu'on est content de pouvoir prendre le métro, moi, je trouve.
Ça, c'est vrai. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h41, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi et c'est l'heure des immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on commence, Rémi, écoutez, avec la grève du jour.
La CGT de la RATP, premier syndicat du groupe, appelle à la grève le jeudi 4 avril prochain. Ce syndicat réclame le versement dès les prochains mois d'augmentation de salaire négociée avec la direction. Le syndicat CGT, qui n'avait pas signé l'augmentation de 100 euros brut mensuel proposée par la direction en février dernier, elle demande dans un communiqué un retour à la table des négociations.
C'est de bonne guerre, Thierry Moreau, voilà, cette grève à la RATP.
Ça va devenir la régie autonome du transport piéton, c'est-à-dire qu'on va aller plus vite à pied.
Il y a la 4 et la 1 et la 14.
C'est pas de bonne guerre, on sait bien que... on l'a répété 50 fois ici, on est dans une fenêtre de tir où les syndicats qui sont ultra majoritaires dans certains secteurs très circonscrits de notre tissu social et industriel font des pressions pour obtenir des augmentations. Et donc, évidemment, ils ont un pouvoir de nuisance absolument monstrueux.
La fenêtre de tir, c'est les JO qui approchent.
Ultra majoritaire. Oui. Voilà. Et donc, là, c'est d'où la fenêtre, avec les JO qui sont en ligne de mire et dont légitimement, l'État veut faire une vitrine absolument merveilleuse. Donc, on va lâcher du lest et donc, ils ont un moyen de pression terrible. Et encore une fois, la grève, je le répète, c'est pas une cartouche à un coup. C'est pas un coup à un coup. Il faut d'abord discuter. Et alors, ils ont beau me dire que la direction ne veut pas discuter, quand on regarde dans le détail, il y a des discussions. Sauf que eux, comme beaucoup sur leur première revendication, ils ne veulent pas bouger. Et donc, ça devient compliqué, quoi. Et ça devient compliqué pour les usagers parce que au moment des JO, ça se passera bien. Donc, les touristes, ça va bien se passer pour eux. En attendant, la personne qui doit faire Mantes-la-Jolie, Château de Vincennes, en ce moment, elle a un peu de mal pour aller bosser le matin quand elle se lève à 5h.
Après, c'est un appel à la grève. C'est-à-dire que si j'arrive à trouver un terrain d'entente avec la direction, il n'y aura pas de grève.
C'est cette pression qu'on met à chaque fois, plutôt que de dire attention, on est en discussion. Enfin, voilà.
Lumière.
C'est en anglais, il y a une expression qui dit « il faut être deux pour danser le tango ». Ce que je trouve assez intéressant, ça veut dire que pour qu'il y ait une grève des travailleurs, il faut qu'il y ait un refus de négocier de la part de l'employeur.
Ou alors il y a des propositions faites par la direction et les syndicats ne veulent pas entendre.
C'est ça.
Oui, enfin là, en l'occurrence, il y a quand même une demande. La demande, elle est retour à la table des négociations. Elle est là, la demande. Hein.
Alors que les syndicats ont signé.
Oui, mais là, la demande, elle est quand même retour à la table des négociations. Alors, donc, ils ne font pas grève pour embêter le monde. Moi, ce que je trouve problématique dans notre culture du dialogue social dans ce pays, c'est qu'en effet, on arrive très rapidement à faire la grève. Mais ça... Je pense que c'est important de le dire, ça n'est pas seulement du fait des travailleurs, c'est aussi parce que tout le monde s'est habitué à fonctionner comme ça, les patrons et les directions y compris, et que souvent, tant qu'il n'y a pas cette menace, il n'y a pas de négociations qui aboutissent. Et ça, je trouve que c'est problématique, et c'est problématique de la part de tout le monde. Et rappelons-nous, qui a le pouvoir quand même, c'est la direction, la plupart du temps. Et enfin, je voudrais juste souligner que la RATP, c'est un peu particulier. Je suis d'accord. Mais tu sais, il y a aussi des corps de métier qui n'ont même pas besoin. Ils disent juste attention, on va faire. C'est le cas d'EDF, c'est le cas de la police, parce que on ne parle pas des augmentations et des avantages que la police a eu en vue des JO.
Ouais, mais c'était plutôt justifié parce que réel. Là, pour le coup, ils vont être en alerte maximale.
Les menaces de grève de la police et de la CGT et de la SNCF et de la RATP. Enfin, je veux dire, mais tu demandes à un Français, aux Français, quelle menace de grève tu entends le plus.
C'est parce que la police n'a même pas besoin de faire la grève. C'est ça qui se passe.
C'est quasiment jamais la grève.
Mais parce qu'elle n'a pas besoin. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas besoin. Arriver jusque-là.
Non, évidemment.
Mais voulu te couper, mais c'est pas vrai que la culture de la grève, elle soit présente, y compris chez les patrons. Il y a des syndicats réformistes, en l'occurrence la CFDT,
qui a rejoint
très régulièrement, qui a rejoint certains mouvements. Il n'y a pas de souci. Mais d'autres fois, qui négocient, qui signent des accords. On n'est pas non plus obligé d'être de la culture de la grève, comme le font certains syndicats, Sud, Rail, la CGT et quelques autres.
Mais je ne te dis pas le contraire. Et d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas,
je ne suis pas en
à la CGT, donc je ne défends pas la CGT. Je dis juste que quand il y a une culture,
elle est entretenue par tout le monde, tous les gens qui sont autour de la table. Et c'est trop facile de seulement toujours pointer du doigt la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire celle de ceux qui font grève.
Bah oui, enfin, c'est ceux qui font grève.
Il y a un syndicat qui n'est plus le premier syndicat de France, qui s'appelle la CGT, et qui doit exister, voilà, parce qu'il a perdu sa première place au profit de la CFDT, dans le privé et dans le public. Et
donc, la CGT... Pas la RATP.
Non mais non.
Où c'est encore le syndicat majoritaire.
Oui,
mais il faut le dire
dans les transports. Oui.
Voilà, ouais. Tout. La CGT c'était syndicat numéro 1, ce n'est plus numéro 1. Mmh. Voilà. Et donc aujourd'hui, ces menaces de grève montrent aussi la fin de la puissance de la CGT, le délitement du pouvoir de la CGT.
Le classement du jour.
Marque préférée des Français en partenariat avec OpinionWay révèle le nouveau classement des marques préférées des Français. Un podium renouvelé des deux tiers cette année. En tête, Bonne Maman, plus 3 places. Samsung, plus 11 places. La Laitière, moins 2 places. Saint-Michel, Danone, parmi les nouveaux entrants dans ce top 30, Google et Monopoly.
Hein, vous le validez ce classement, Louvier, d'après ou pas? Bonne Maman, Samsung et la laitière. Mais Bonne Maman et la laitière, ça fait un peu.
J'avoue, bah, pas
tu
du
vois,
tout.
Ouais, un peu les produits d'antan. Ils sont absolument pas d'antan.
C'est de la bouffe.
Hein. C'est de la bouffe. Oui, mais c'est de la bouffe. Et toi, Bonne Maman, oui, la laitière. Ouais.
Tu sais,
ça sent la grand-mère un peu. Tu vois ce que je veux dire?
C'était mieux avant.
Moi, j'aurais mis Décathlon quand même. Je comprends pas comment Décathlon n'est pas premier, quoi.
Ils étaient premiers l'année dernière.
Ah ouais, voilà, c'est ça.
Sur un classement un petit peu particulier.
C'est vraiment la meilleure marque.
Là, il y a que Samsung, en fait, qui n'est pas une marque alimentaire, à part Google et.
Et Monopoly, alors là j'aimerais comprendre.
J'adore. Bah, pareil. Enfin, tout le monde joue au Monopoly.
Bah oui.
Et moi j'aime pas du tout ce jeu, j'avoue, mais.
Moi je fais la banque au Monopoly.
Oui, ah bon ça. Mais qui est surpris bon. Estelle, qui est surpris?
J'ai joué deux fois dans ma vie.
Gars.
Et tu dénonces ceux qui font
la banque. Et je dénonce, je ne vends pas mes terrains, je bloque les gares et je fais la banque. Et je gagne, bizarrement. Fred Hermel, vous le trouvez plutôt cohérent ce classement?
Oui,
vous auriez mis comme Lumière d'autres marques comme Décathlon par exemple.
Moi, alors moi je vais jamais à Décathlon.
C'est parce que tu fais pas de sport?
Oui, voilà.
Non, mais si je fais du sport, je marche beaucoup, mais je ne vais jamais à Décathlon. Mais
une marque pour mocassins.
Mais ça. Non, et des baskets.
Avec des marques.
Une marque que tu veux, qui est ta marque préférée ou pas?
Non, mais c'est vrai, en recevant les sujets ce matin, je me disais quelle est ma marque préférée. J'avais du mal à. Hermès pour le parfum. Mais
oh mon Dieu!
Mais non, parce que tout le monde dit que je sens bon, et c'est vrai que.
Quel bourgeois.
Thierry Moreau.
Non, c'est vrai que ça sent bon, vous l'avez dit, la tradition, Bonne
la
Maman,
naphtaline.
Tout ça. Non, pas la naphtaline, la tradition, le terroir, alors qu'en fait, c'est pas de terroir, on est dans de l'industriel. Hein. Bonne Maman, c'est une des plus énormes sociétés industrielles d'alimentation. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que dans ce classement, il y a quand même beaucoup de marques alimentaires. C'est-à-dire
c'est
que
ça.
Pour les Français, la bouffe, c'est encore très important, oui. Et ça, c'est une très bonne chose.
Oui, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Français peuvent juste se faire plaisir avec des loisirs, des téléphones,
Samsung,
etc.
C'est plus cher qu'un pot de confiture
Bonne
Maman.
Oui, mais regarde, c'est la seule marque. Google, c'est gratuit. Un Monopoly, c'est pas non plus. Alors, j'enlève Samsung, mais tout le reste, c'est des marques alimentaires parce qu'un yaourt, ça coûte moins cher qu'un téléphone. Donc, en fait, tu peux encore te faire un peu plaisir avec de la nourriture parce que même si les prix ont énormément augmenté, c'est moins cher.
Plaisir, enfin, je trouve qu'il y a un plaisir à manger un yaourt que t'as pas en utilisant ton téléphone. C'est pas le même plaisir, quoi.
Après, non, mais tu scrolles rarement des yaourts le soir avant de manger.
Et tu manges rarement des téléphones.
Danone, c'est quand même. Pour choisir une, vraiment, c'est quand même une réussite à la française.
Après, ce qui m'interroge quand même, c'est que un yaourt, la laitière, ça coûte super cher. Donc moi, j'ai envie de dire, si vous avez l'argent de faire ça, allez chez le fromager et prenez un yaourt qui a été fait par la laiterie du coin. C'est meilleur pour la santé.
C'est plus cher.
Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai regardé. Parce que dans mon supermarché, chez moi, il y a justement deux rayons avec des produits locaux de la ferme d'à côté et des produits industriels. C'est plus d'1 euro le yaourt.
Ah, oui, non, mais moi, ce que je fais, c'est que j'achète des gros trucs de bocaux pour toute la famille.
Mais tu peux pas le conserver après.
Faut le manger vite. Mais si t'as une famille avec des enfants, ça se. Et puis bon, tu soutiens aussi. Tu vois, on parlait de la crise des agriculteurs. Tu soutiens aussi des gens qui travaillent juste à côté de chez nous.
On ne peut pas.
Ah, mais ça, je suis bien d'accord. Mais bon, je pense que si tu peux vraiment pas, t'achètes des trucs sans marque, pas forcément la laitière. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas quand je grandissais. On n'achetait pas de marque. Hein.
Allez, tout de suite, Vincent Cerussi, notre humoriste. Cerussi n'a pas tout compris, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
Cerussi n'a pas tout compris.
Bonjour Vincent.
Bonjour Denise. Bonjour Estelle, excusez-moi. Je me suis trompé en écoutant l'émission.
Vincent, vous ne comprenez pas la nouvelle photo d'Emmanuel Macron en train de boxer en noir et blanc.
Ah oui, une nouvelle photo de Macron en train de boxer, prise par sa photographe officielle, Soizic de la Moissonnière, photographe officielle de Louis XIV et Louis XVI aussi. Non, mais c'est vrai que sur cette photo, on voit quand même qu'Emmanuel Macron a un autre talent qu'on ne connaissait pas. Photoshop, voilà. Quand tu regardes son biceps, il est quand même plus gros que François Hollande, va falloir arrêter les conneries. C'est n'importe quoi. Après, au moins, ça a inspiré Joe Biden, hein, qui a posté une photo où il arrive à sauver de sa chaise. Et pour ça, bien joué, Joe. Bien joué.
Est-ce que vous trouvez que cette photo le met à son avantage?
Bah, il a quand même l'air un peu tendu, hein, sur la photo. Et en vrai, ça peut se comprendre.
Il est en train de boxer.
Oui, bah, c'est ça. C'est pour ça. Ah, oui. Non, mais parce que là, il y avait les caméras. Mais normalement, il y a un gilet jaune, hein, sur le punching ball. Ou une photo d'Edouard Philippe. Non, c'est différent. Après, je pense que Macron s'est trompé. Je pense qu'il voulait envoyer la photo directement à Vladimir Poutine. Je suis plus fort que toi, Vladimir. J'arrive. Après, la photo a dû faire frémir Brigitte, mais pas que.
Ah oui. On a un président qui est beau. Voilà, il est beau, quoi. Enfin, c'est un bel homme. Il a des qualités physiques indéniables. Moi, je trouve ça beau.
Eh ben alors, Fred, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est que cette déclaration d'amour à Manu, là?
Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a pris cette photo?
Bah, pour préparer le combat contre Rachida Dati.
Hein? Mais comment ça?
Ah bah, vous avez pas vu. Non, bah, apparemment, quand elle a appris qu'il y aurait des coupes budgétaires dans son ministère, elle aurait envoyé à Bruno Le Maire: tu n'es qu'une grosse merde. Voilà. Fin de citation, hein, je cite. Bon, ce qu'ils ont pas dit, c'est qu'elle venait de finir son dernier livre. Donc ça, ça peut se comprendre. Et elle a dit à Gabriel Attal: je vais transformer ton chien en kebab. Voilà. C'est plus Rachida.
Elle a dit que c'était pas vrai, hein.
Elle a dit que c'était pas vrai, mais enfin, elle a déjà envoyé ça hors feu il y a 10 ans. Donc, enfin, c'est plus Rachida, c'est Booba, hein. Là, je pense qu'on peut l'appeler comme ça directement. Depuis qu'elle a participé à l'émission Culture Rap, elle a mis les gants. Et du coup, bah, Manu se prépare, quoi, forcément.
Alors, Vincent, dans Estelle Midi, on s'est aussi demandé s'il fallait dénoncer ses voisins qui font de la fraude fiscale.
Oui, bah, fraude fiscale record. Année record pour le fisc, hein, oui. Qui a récupéré 15 milliards sur la fraude quand même. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Enfin, vous emballez pas non plus, hein. C'était juste le virement de Marco Mouli. C'est vrai que l'État promet une rémunération contre la dénonciation d'un fraudeur fiscal. C'est la commission Poucave, hein, qui a fait passer cette loi. Enfin, pour moi, ça marchera pas, hein, je vous le dis, parce que voilà, il faut appeler les impôts pour dénoncer, quoi. Ah oui, les mecs répondent pas. Tu veux dénoncer qui? Ah oui, mais tout simplement, nous ne nous emballons pas. Surtout qu'il y en a qui vont pas comprendre, je pense. T'as un mec qui va les appeler: oui, bonjour, il y a une personne juive qui habite à côté de chez moi. Le mec va être là, bah, d'accord, bah, très bien, monsieur, merci. C'est le bureau de la fraude fiscale ici. Rien à voir. Je peux vous donner le bureau de Vichy, si vous voulez, le numéro, mais sinon, rien à voir.
Après, si la délation peut permettre de réduire la fraude fiscale, c'est pas mal quand même.
Attention, Estelle, au vocabulaire. On parle pas de délateur, on parle d'aviseur.
Oui, hein,
d'aviseur.
Pareil.
Je vous avise de ma délation. Hein, voilà. Mon voisin a une piscine non déclarée. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà. Je vous avise aussi de mon RIB, hein, du coup. Je prends les chèques, tickets resto, cash. Aviseur, délateur, c'est n'importe quoi. C'est comme si ton patron te disait: je te vire pas, hein, mais tu ne seras plus jamais là. Voilà. Et pas payé. Mais je ne te vire pas. Voilà. Mais les termes ont leur importance quand même.
Mais vous pensez pas que c'est une bonne mesure?
Non, non, non. Il va y avoir une parano générale. T'as ton pote qui va venir chez toi. Toi, tu vas tout planquer et lui, il sera là.
Il y avait un bibelot là.
Il y avait un bibelot. Mais oui. Thierry va recevoir des coups de fil pour déclarer ses poules aux impôts. Loumir va recevoir des appels pour savoir si elle a déclaré son François Ruffin qui vit chez elle. Non, non, c'est scandaleux.
Il faut déclarer tous tes spectacles.
Il faut que je déclare tous mes spectacles. Mais non, moi, là où je trouve ça scandaleux, c'est quand même que les fonctionnaires arrivent encore à trouver le moyen de nous faire boisser à leur place. Et ça, franchement, c'est dégueulasse.
Vincent Serroussi. Serroussi n'a pas tout compris. Vous êtes toujours dans Estelle Midi et en podcast, évidemment, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Et tout de suite, c'est Vincent Moscato, le super Moscato Show. Bonjour.
Vincent,
Vincent.
Estelle, t'es en forme?
Bien, ouais, ça va, merci.
Alors, on va parler de foot, on va parler de Thierry Henry.
Ah ouais.
S'entête-t-il avec Mbappé? Là, il y en a marre. Là,
c'est bon, pourquoi? Bah, il a bien raison de voir le faire jouer les JO.
Ouais, mais tu sais que c'est un sport co quand même. Le culte de la personnalité, arrêtez cette pression. C'est pénible au bout d'un moment. Ça devient, c'est comme Dupont, tu sais. Le mec, il joue dans un groupe quand même. Au bout d'un moment, les autres, ils devraient dire.
Bien sûr.
Hervé Renard, patriote ou mercenaire? Voilà, on a vu parce que bon, là, on a marre des filles, il se passe cette année. Aubameyang mérite-t-il son salaire, 650 000 mensuels? On va parler un peu de l'oseille des autres. Voilà, de ce qu'on gagne, ça nous fait plaisir.
Je vous laisse soumir. Sur les gros salaires, je vous laisse soumir dans l'émission.
Oui, mais comme dirait Oudéa Castéra, vu tous les heures qui s'en fournent, c'est sans doute pas grand-chose.
Oh, Jaja.
T'as combien, toi, Estelle?
J'ai moins que ça. Mais je ne désespère pas.
T'as combien? T'es un peu en dessous, quoi.
Je suis très en dessous, ouais.
Ouais, moi, je m'en fous. Moi, tu viens là-dessous avec le nouvel actionnaire, tu vas te gaver, toi. Je le sens. Moi, je suis pététine, je m'en fous. J'aime bien parler d'oseille.
Bah, évidemment.
Ben voilà.
Bon, ben, c'est tout, il n'y a rien d'autre.
Ben, si. Attends, il y en a plein, mais je ne me rappelle plus de quoi on parle.
Il est tour de destination, on n'en parle plus.
Ah oui, le tournoi destination.
Mais oui.
Alors qu'on n'a même pas fini la semaine.
On n'a pas fini de débriefer, on aura Patrick Arletas, l'entraîneur de trois quarts de l'équipe de France.
Donc ah bah
on va en parler, ouais, c'est super.
Bien sûr. Vous devriez poser la question, est-ce que ça a été un bon tournoi, tu vois?
Oui, non mais attends, on va si bien dire, celui-là, je le réserve pour lundi. Voir mardi, et si on n'a pas fini, mercredi, on en parlera encore. Voilà.
Allez, merci Vincent Moscato, le super Moscato Show, c'est tout de suite, et nous on se retrouve demain à midi 15h dans Estelle Midi. Salut.